Bonjour, nous sommes mardi matin dans La vie est un roman sur Aligre FM 93.1. Et ce matin, nous allons avoir le plaisir, l'honneur et la joie d'entendre une lecture pour commencer l'émission de Fanny Quémant de Jules Casagrande, paru aux éditions Quartet dans la collection Prose Libre. À vous, Fanny.
Merci Yves Tanré. Merci de m'avoir invité. Avant de commencer, sortir le pied de la jambe, grimper le sol pour faire place en dehors, arrondir l'eau, ensuite reprendre un élan, décrire la difficulté en vous déplaçant sur les fesses sans l'aide des bras, respirer en sollicitant alternativement les hanches et les omoplates de la bouche, ouvrir la tête opposée. Pédaler en ciseaux, tourner en chandelle, inverser les muscles à pieds joints, rester quelques instants sur terre, exécuter le ballon sur un bottin téléphonique, revenir à la position de départ. Vous avez décrit un cercle. Chapitre 1. Ghosterie. Jules Casagrande n'avait pas les mots qu'elle disait. Soit qu'elle ne les trouva pas, soit qu'elle les cracha déjà tout pégueux. Entre deux longs silences, on l'eût dit parler au travers, ventriloqué, perroqueté. Son phrasé, à la godille, un accordéon plein d'air et de trous. Les mots lui venaient à la bouche en tapons remâchés, épars, à demi dissous par les sucs. Elle avait d'ailleurs dégobillé tout récemment. Bribes, substantif féminin, morceaux de pain que l'on donne aux mendiants. Ou peut-être plus souvent aux canards, aux cygnes et aux pigeons. Le recensement ne permet pas d'établir de statistiques fiables à ce sujet. Collectionneuse de coquilles et scorribes des plus ailées, elle avait fait de l'écriture un jeu de massacre et d'adresse, confiant ses torchons à quelques correspondantes soigneusement choisies. Une bande de garces erratiques qui, chaque soir et jusqu'aux petites heures, s'adonnaient au travail continu de la ruine, ménageant leurs palabres en épaves, en petits chaos d'une arrogante mesquinerie. Car la Casagrande et sa clique étaient passés maîtres en l'art de trélater, à savoir une diablerie quelque part entre un carnage et un haut fait de langue. C'était inévitable, enfante érable d'un accouplement tricéphale, Jules avait sous l'écorce une langue de glaise fourche et torve à jamais entre deux os. Elle ne jurait que par les antagonymes, les mots fourbes et les mots fantômes. Toujours à chercher la compagnie des souffleuses de verre, elle avait cette façon toute impersonnelle de se faire écorteler, outrepenser, avant de lancer de grands éclats de rire qu'elle faisait miroiter. Alouette, Jules de plume en ré. Équipée de sa frontale, elle allait piller ce qu'il restait de propos polymorphes dans les usines à langue abandonnées. L'affaire avait d'ailleurs pris de l'ampleur ces derniers temps. L'affaire avait d'ailleurs pris de l'ampleur ces derniers temps. Les trélatresses agissaient en bande. Un vrai gang de trouspées, ça rapinait sec. De retour au bercail, on brassait du morphème, il pleuvait des lexèmes, ça sniffait du phonème. Roule ta perle. Et pourtant, le silence toujours revenait. Jules Casagrande n'avait pas les mots, mais faudrait pas croire qu'elle s'en plaignait. Les discours vendus sous vide aux rayons prêts à parler lui semblaient répugnants d'hygiène. Elle fourrait délibérément ses doigts dans des paniers de crabes et s'en allait, clopoint clopant, dodeliner de la tête au creux des dolines, piéta de son paysage, béance qui n'était pour elle qu'aubaine abyssale. Alouette, gentille luette, Alouette, Jules de plume en ré. Tout ceci peut sembler monstrueux, mais je tiens à dire que le genre d'individu qui s'en amuse existe. La langue scotchée sur une pile plate, pour l'amour du jus. Document 1. Brouillon enregistré pour un nouveau dictionnaire. Enregistré sur dictaphone.
Alors, Ghosterie, ce serait une histoire de fantôme à fort caractère fanfaron. Bourdon, Ça, c'est facile, c'est le nom que les typographes donnent aux omissions. Mise en onde, technique d'apprivoisement des fluides. Trélater, traduire librement d'une langue fantôme à une langue hantée ou inversement.
Document 2, séance de psittacisme ou ventriloquie entre garces erratiques, enregistrée sur cassette audio.
Un homme en train de se noyer s'écrie « Tu veux rire ? Sacré Gérard, accroche-toi au pinceau !»«
Attention ! Perroquet dangereux ! » !»«
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Je pense que vous avez le doigt cassé, ça fait mal. »« Mais pourquoi êtes-vous ici ?»« Aucune importance. »
Même les chiens ont peur.
Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est vraiment dégueulasse, qu'est-ce qui se passe? C'est pour enterrer mon canari qui est mort.
Mais ça veut dire quoi, ça?
Alors, confidence pour confidence, c'est une simple répétition. Vous vous foutez pas un peu de ma gueule? Quelle importance.
Donnez-moi un verre d'eau.
Tu vas avouer que t'es un lapin? J'étais comptable. Bien, mon petit Gilbert, c'est très bien, Gilbert.
Pan, pan, pan !
Fantastique. Jetez les corps dans la piscine.
Vous savez, votre perroquet est vraiment un cas clinique.
Chapitre 2. Aberrationnisme ou l'incorrection qui vient. Dans les sous-bois de papier, Juice Cassagante observe l'avancée des moisissures. Les ligneuses prennent un tour spongieux. Les herbacées partent en vrille dans les marges. Sous les frondaisons déjà vert de gris, à l'initiale de chaque ramification, les lettrines s'en mycosent à merveille, les ligatures se propagent sous l'effet des ifs, les jambages en putréfaction exultent à l'idée de bientôt faire régner la confusion des N et des M, des F et des L, des I et des U, et ainsi de suite, jusqu'à vraiment fondre le dans l'eau, et qu'ainsi soit faite la volonté de 10. Les mouches s'amputent médiculeusement de leurs pattes, et de ces pattes, elles tapissent les feuilles, les emplâtrent et les encryptent, et signent leur sacrifice à la gloire de l'illisible. Leurs mandibules, pinceaux de placardeuses clandestines, font subtilement baver leur entomographie. Des mousses insectivores imitent les phasmes dont elles se nourrissent. Une lente dévora-digestion s'opère. Alors Juice se rêve en errance, se campe en Jane Eyre. Elle soulève une pierre, une scolopendre scarapate. Elle s'approche de la tourbière, une bringette flottelle, un peu trigode. Jusque-là, rien de si déroutant. Mais la Cassagante a de la ressource en matière d'aberration langagière. Elle connaît l'au-delà de l'erreur, les marées des enfers du lexique. Elle sait où trouver les galoirs, les gales et les uligadus. Dans les recoins les plus gouffronneux, les repères d'un corne à faire fuir la flicaille autoproclamée, elle dénistre les monstres morphologiques, les enoste et s'en fait sa sopate. Trouvaille jussive en ce jour, chieffé, substantif masculin, bienveillance. À deux glyphes de la pamoison, Juice Cassagante s'empresse d'ameuter ses amioches pour leur montrer son trésor. Et chacune aussitôt remagine et délitoie, chieffé et bien-être. La magie du chieffé, éloge du chieffé, le chieffé au travail, tout un monde à refaire chier. Ça révendrille joyeusement chez les garces erratiques quand soudain la soupe aux lettres tourne au vigmeux. C'est qu'au pied des yernises, sous les froissures des gâte-papier, pointe le chapeau d'une correctionnite. Tu la mouches, vraisemblablement. Juice pâlit. Elle sait ce cryptogame à lamelles plus toxique que du foie d'expert sous bibiche. Et si qu'elle a de la famille, le vôtre, sa cousine, la correctionnite des Césars, décerne ses lauriers, tandis que la phalloïde embriche les imposteurs dans son glossaire à salade. Morphème, vos papiers! Une armée de raconcineurs, toujours à traquer les errements des copistes, les mélectures des éditeurs, les déglutinations par mécoupures, les métaplasmes ectoplasmiques, fantômes fichés, classés pseudolexèmes, a donc sans droit de cité. Les correctionnites savent assaillir les mots déplacés, les paroles déviantes, le français langue étrangère. La tue-la-mouche n'est que la première d'un trop grand cercle. Face à l'ennemi répression-correction, les garces ne sont plus que fiels des fangières. Pseudo-lexème ? Les injures, elles sont calanques. Incorrigibles, les voilà prêtes à prendre le maquis pour aller pisser sur les polices et s'empaginer des garigantières, saboter les buvards et mouiller l'encre en eau libre. Pas question de tomber en déshérence. Stet, mon royaume pour un bourdon, all correctionnit or bastards. Juice s'emporte et perd sa lampe à force d'acrimonie. Mais la revoilà qui s'engosse l'outre, un moignon charbonneux niché derrière ses chicots. Elle s'enténèbre à la langue à pétrole et s'embrase à la madou. De quoi chancrer juste. Inégale en elle-même, elle s'accroche à ses coquilles, s'en fait des colliers de perles, roule des mécaniques et rit de sa provocation. Laidière et baranette, niacelle et bûchon, mulberry, nacoé, délita boison. Document 4. Enregistrement d'un interrogatoire. Réponse d'une garce ayant dû décliner son identité après interpellation par la brigade des mœurs linguistiques.
Fanny Longo, Nini la flague. Une sale peste, une vraie pisseuse. Sécotine, un sacré pot de colle. Une rime à rien, une espèce d'allumeuse. Une emmerdeuse en culotte courte, un perroquet polyglotte, un saccage, une arnaque, une injonction à l'écoute, une sonnette à deux balles, du pipeau sur toute la ligne et comme tout le monde, un sac à merde. Un scandale enterré, Guy déborde, Donna qui chatte, Fanny Tutti, quasi, Louise Carole, James Juice, Denis la malice. La papesse avachie. Une baleine sous gravillon. Un accident. Un attentat. Une blague. Une doublure.
Chapitre 3. Thérapie de groupuscule. Loin de la menace, leur colère s'amenuise. Et puis, la rive est pas dégueu. Semblerait même qu'à tout perdre, elles aient gagné au change. Ça leur va comme un gant, le bord de mer. Amphibiennes de corps et d'esprit, elles évoluent sur le littoral, en toute aisance. On les croirait sorties de cette côte-là. L'arrière-pays, elles l'ont au creux du ventre, comme des idées derrière la tête. Alors, plus besoin de l'habiter. Elles l'ont fait territoire intérieur et le décrète extime. L'offre à l'eau, comme une gigantesque muqueuse. Tout devient mou, doux, spongieux et poreux. C'est un bon endroit pour faire la grève de tout, même un peu celle des mots. Elles s'inventent leur cure, leur thalassothérapie d'hydre endolorie, et se sacrent reine des branleuses. Wanker power. Il faut savoir que leurs fontanelles ne se sont jamais refermées. Cela explique beaucoup de choses. La persistance des membranes facilite la circulation de tout dans tout, évite l'ossification et donne un charmant côté tortue. Dans les terres, on les disait souvent mollusques ou trépanés. On avait voulu les soumettre à divers électrochocs. Comme par retournement du stigmate, Juice expérimente désormais un devenir bivalve tout en flamboyance. Lambinage orangé, mollesse incarnate, déliquescence nacreuse. Si l'ennui la guette, elle s'extirpe délicatement de sa langueur, s'assied le temps de reprendre forme et conscience, et s'éloigne avec nonchalance et malice pour aller se dévergonder les jambes sur quelques sentes adéquatement fréquentées, un petit sourire au coin des valves. Elle regrette parfois la moiteur des sous-bois, son laboratoire à mots fantômes et les monstruosités qui lui sortaient de la bouche. Mais elle embrasse, au fond, cette aridité nouvelle et tout ce qu'elle a de tacite. Pour s'abriter du soleil et du monde, elle s'est fait une hutte, un édicule à la gloire de l'architecture approximative. Dans le silence, elle y fait des collages qu'elle épingle à ses murs pour les faire tenir. Elle aime bien tout ce qui colle, toutes les glues. Sa goutte l'interdit. Elle aime bien le carnage appliqué, sentir les pièces faire corps autrement sous ses doigts. La vengeance par le détournement. Dans le journal local, elle s'apprête à débiter. Non, dans le journal local qu'elle s'apprête à débiter, elle tombe sur la réclame d'un thérapeute à prix libre. Encore une escroquerie qui tombe juste, soupire-t-elle, sans qu'on sache trop si elle parle de la psychanalyse, du prix libre ou de ses propres collages. Elle voudrait sortir du récit. Ou bien que le récit des peines ne soit pas qu'une affaire à huis clos dans le petit théâtre de son crâne, de son intérieur fantasque ou d'un cabinet mal éclairé. Et puis, l'art-thérapie, c'est bien joli, mais c'est pas tout. Alors, elle rejoint les garces, reposée, mais aussi quelque peu lassée de leur cure. Reprise des affaires. Il est temps que la lutte des branleuses s'organise, dans une langue où l'on puisse désigner d'un seul et même mot le refoulement et la répression, et nommer l'anomie plutôt que de se croire malade et responsable de sa propre maladie. Document 19, bulletin d'information enregistré, trouvé
vous
sur
écoutez PLD à Ligre FM 93.
Et ayant probablement 1. Été diffusé par voie radiophonique.
Nuit agitée à très agitée. Noctambule, bulldozer, ermitage, hache de merde. Sous l'influence d'un petit polypore aperçu 15 jours plus tôt, nous rêvons de faire pousser des algues dinosaures accouchant de perles champignons, pédelous nacrés. Elles ont de grandes gueules et rien de rassurant.
Document 21, poème radiophonique trouvé sur clé USB.
Elle observe une torche et ses flammes bleues mangées d'ombre. Ce n'est encore qu'un petit halo. Personne ne le voit. Mais elle sait que de là viendra l'incendie. Et elle, en plein cœur de ça, il faudra qu'elle se débrouille, ravagée par le feu consciencieux. Il est devant elle. Il n'est pas pressé. Il a tout son sang. Il a ici son affaire. Il est impassible. Au-dessus de la torche, elle malaxe une mélasse brillante et sombre, comme celle que l'on donne parfois aux animaux par temps de grand froid. Elle prépare l'huile et distille à feu nu son amertume avec un peu de chauve-vive.
Doucement,
le kilobe en épi se déploie et elle s'enfonce dans l'aube précise. Plante invasive, gosier de feu, elle avance et s'étiole en noir de fumée. Cierge des sorcières, feu sournois, feu mutin. Il n'est pas question d'en rester à de menus incendies ni de flamber droit. Elle compte bien se frotter au soufre, taquiner les braises, dissiper les cendres, prendre ce qu'il reste de flamèches et le mettre en partage, apprivoiser des feux follets, s'approvisionner en combustible, improviser des artifices et se lier d'incandescence. Sous terre, d'autres ont tenu conseil et la rejoignent pour ouvrir le bal. On regarde l'incendie s'étendre, on avance dans la cendre chaude, on escarbille les yeux, on n'ira pas charbonner ni bûcher ou seulement à la lettre, tout mettre à la broche, tisonner l'air de rien, faire des mots cramés, cautériser les plaies, finir d'incinérer les ordures. Au contact des flammes, on sent la paume de nos mains fondre légèrement. Bras en feu, gais comme les sainfoins. Elles font la roue sur les remparts, dans l'obscurité bleu fumé.
Dans l'obscurité bleu fumé.
Nota bene, le fichier est intitulé « Piraterie ». Les spécialistes en garce erratique s'accordent à dire que ce poème est probablement le produit d'un véritable pillage. Chapitre 4. La paresse au peuple. Sa chaume dure chez les garces. Échouées seules ou par banc, par amoncellement, elles sont toutes à leur tâche. Chacune s'applique à se prélasser, flémarde avec zèle, met du cœur à l'ouvrage, une ode au farniente, l'art de rimbranler. Elle s'immerge dans l'atonie. L'une gémit, l'autre ronfle. L'une s'épate, l'autre fait la perle. Une grande vague de paresse s'apprête à déferler sur toute la région. En pleine cagnardise, elles ont le cerveau qui pèle et qui leur fait des lambeaux de chimère à la place des cheveux, tandis que par le dessous, doucettement, minutieusement, leur cortex fait peau neuve. L'entraînement est intensif. Quelques jours de pratique et voilà que déborde la matière grise de leur corps alangui. Même à marée basse, elles ont l'imagination qui monte et digresse et reflue, ressasse et sonde et creuse. À temps rimbranlé, chacune finit par creuser les choses qui sont là, sous son nez, sous ses doigts, à chercher en toute chose, sous chaque socle ou couvercle, son petit havre, sa petite utopie personnelle. Chacune creuse du bout de sa cervelle. Mimi bulle en terrasse. Elle voit une théière. Elle se met dans cette théière. Enfin la paix. Françoise pioche le béton pour savoir ce qu'elle a derrière la tête, ce qui s'est fait murer. Probablement quelques envies de meurtre et une histoire de bergère libre. Candy s'engouffre sous le phare, espère trouver les cités d'or et tombe sur un panari fiscal qui lui gicle en pleine face un pu sanguinolent. De retour à la surface, elle se passionne pour l'aquaculture. Alice, l'amoureuse des rêves creux, recueille la continuation de leurs songes. Gulliver s'impatiente et monte sur ses grandes juments. Ce qu'elle veut, c'est partir en voyage, s'évader. Elle s'en fout, elle, des choses qui sont là. Des profondeurs de son nombril, Galatée extirpe un tapon de bouloche dont elle s'émerveille, ainsi qu'un peu de crasse qu'elle fait rouler sous la pulpe de ses doigts. Elle en fait un golem moutonneux. Avec l'outrance qu'on lui connaît, Juice rimbranle à n'en plus finir, s'adonne au songe d'une ultime débauche et fomente le plus grand programme de décroissance jamais espéré. Mais chacun de ces refuges est encore un peu trop civilisé, trop encombré d'optimisme ou de nostalgie, trop lourd de pensées magiques et terriblement privatif. Alors, d'un commun accord, la mauvaise troupe se rend au sommeil et dans l'improductivité la plus totale, toutes caressent les replis d'ici plutôt que les rêves d'ailleurs. Au réveil, elles reprennent la creusette, celle des choses déjà là, autrement que pour fuir, et autrement qu'en vase clos.
Merci Fanny, nous allons écouter un petit morceau de musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Et maintenant, nous allons entendre Laurent Pépin nous lire des pages de son conte Clapotil, qui est paru aux éditions Les Fables Fertiles. À vous, Laurent.
Merci Yves de m'avoir invité. Ça va commencer de façon un petit peu abrupte parce que je commence au milieu d'un chapitre. La pancarte à l'entrée indiquait l'enfance du désert. C'était à ce moment-là qu'on savait qu'on était arrivé. Car à l'intérieur de la maison, le temps était suspendu. On le devinait facilement, à cause des froissements imperceptibles dans l'air et du petit rideau de vent agglutiné qu'on avait tout le temps l'impression de pousser devant soi lorsqu'on partait en exploration de pièce en pièce. Et l'on ne s'en rappelait pas encore, mais au fond, on avait parfaitement conscience qu'il s'agissait d'un pot-pourri des maisons dans lesquelles on avait grandi. Les bouteilles d'alcool de la mère, les outils de taxidermiste du père, ses machines pour nourrir ses enfants par voie entérale, les cafards qui grouillaient dans ses chemises, les seringues des amis de la mère, les baumes pour soigner les clochards qu'elle recueillait, dont la peau était rongée par l'alcool et différentes substances, les poches de médicaments qui servaient à dormir ou à mourir longtemps. Et l'on avait beau s'en défendre, on savait bien que toutes ces reliques étaient des fragments de nos souvenirs cassés. Alors, une fleur carnivore s'ouvrait dans notre poitrine, que l'on connaissait si bien, à cause de sa faculté à aspirer la moelle et les sucs du désir et de l'existence. La fleur carnivore poussait à l'intérieur de nous-mêmes, dans le trou noir qu'on avait à côté du cœur, depuis qu'on était bébé. On s'en souvenait à présent. C'était un secret terrible pour un petit garçon. Il y avait ce vide qui aspirait les pensées et les sensations, ne laissant derrière lui que de l'insensé, de la peur et de la douleur. C'était sans doute pour ça que l'on avait décidé un beau jour de devenir un personnage de conte. La déchéance de la mère, les suicides du père, sa saleté, la violence à la maison, mais peut-être surtout cette terreur qui nous condamnait depuis toujours à rester à l'écart des autres enfants en les guettant de loin pour s'imaginer jouer avec eux. À l'époque, on devait déjà s'entourer de personnages et essayer de devenir l'un d'entre eux afin de pouvoir rêver sans danger. On devenait même invisible quelquefois. Il suffisait d'un instant d'inadvertance où on était absent à soi-même, où on ne marquait aucun désir pour l'environnement immédiat et les gens ne nous voyaient plus. Parfois, c'était pratique, malgré cette pointe de regret qui nous piquait toujours comme un fuseau pour nous faire dormir 100 ans dans notre trou noir. Mais lorsque les autres enfants ou les adultes nous regardaient, on avait mal au ventre et à la poitrine, et les mots, les images, les sons se transformaient en corps étrangers paralysants contre lesquels nos pouvoirs se brisaient. Alors, on éprouvait une honte écrasante, qui ne se diffusait pas seulement comme un ensemble de sensations pernicieuses. C'était plutôt comme si notre propre peau se mettait à excréter des odeurs rances, et les gens le sentaient, et on le savait quand on les voyait retrousser leurs narines avec mépris. Et ensuite, on ne pouvait plus regarder les autres. Pourtant, il y avait une fille que l'on avait pu regarder. Une fille que l'on n'avait jamais vue auparavant, dont on ne connaissait pas encore le prénom et qui était entourée de ses amis. Les autres s'appelaient Flore, Eliante et Chrysalide, ce qui n'avait pas d'importance, parce que la fille qui n'avait pas encore de prénom existait vraiment. D'ailleurs, elle portait un peignoir philharmonieux à partition peinte, des sandales de cuivre bleu et de grands yeux larges. Et on la contemplait, et on se demandait pourquoi nos pieds iraient plus loin désormais, car cette fille n'avait pas encore de prénom, elle avait à la place une figure comestible ou alors douloureuse comme un poignard doré. Et l'on se disait que peut-être, près d'elle, notre trou noir, notre fleur carnivore et notre timidité s'en iraient, comme on met fin à un sortilège. Peut-être même devinerait-elle que l'on n'était plus depuis longtemps le petit garçon que l'on donnait à voir au monde des autres, mais un être issu d'un monde parallèle, doté de pouvoirs insoupçonnés, et nous embrasserait-elle afin de nous rendre la silhouette et la figure qui nous appartenaient en propre, au lieu de notre allure de crapaud repoussant. Mais un jour, qu'on la dévisageait peut-être trop intensément devant les grilles du collège, on s'aperçut tout à coup qu'elle avait les yeux levés vers nous. Notre désir avait dû marquer sa peau de son faisceau lumineux et elle en avait trouvé la source. Apeurée, on hésitait à s'approcher d'elle, à lui adresser la parole. Seulement, au moment de franchir le pas, quelque chose au coin de la rue arrêta notre geste. La mère chancelait sur un trottoir en compagnie de ses amis clochards. La mère avait commencé à fréquenter des clochards depuis sa séparation d'avec le père. Elle les invitait à vivre à la maison et parfois, comme aujourd'hui, ils sortaient et essayaient de marcher un peu à l'air libre. On alla se cacher dans le renfoncement offert par l'immeuble plus proche. Il aurait pourtant suffi de franchir les grilles pour nous intégrer parmi les autres enfants. La mère ne nous aurait sans doute pas vus. Mais l'on ne s'en sentait pas capable, et cela faisait des mois que l'on n'avait plus mis les pieds au collège. On se contentait de s'en approcher aux heures de récréation et de sortie afin d'imaginer rentrer en contact en toute sécurité. Cependant, la mère et sa cohorte éthylique approchaient. On entendait leur voix, qui semblait s'exprimer dans une langue étrangère. C'étaient des bruits de gorge, des onomatopées, des grognements gutturaux. Lorsqu'ils passèrent devant nous, drainant une forte odeur d'urine et de vomissure, avec leurs figures rongées, on baissa la tête. Sortant de la pénombre, on retourna ensuite voir la fille qui avait fini par avoir un prénom depuis. Mais notre honte s'était probablement mise à sentir, et ses yeux brûlaient de haine et de mépris. Dans un geste réflexe, on tâta notre visage pour vérifier qu'il n'était pas devenu difforme lui aussi, avant de nous enfuir en courant. Quand nos yeux s'ouvraient enfin, beaucoup plus tard dans nos souvenirs cassés, les clochards de la mer étaient maintenant des dizaines. Ils semblaient s'être démultipliés, comme déportés de rongeurs. En revanche, le père allait un peu mieux. Il se suicidait moins, depuis qu'il avait pris l'habitude de regarder son fils nu dans la baignoire en imaginant des choses avec son corps. Mais on n'aimait pas que l'on envisage notre corps comme quelque chose que l'on pouvait capturer pour s'en servir à sa guise. Alors, afin de créer une bulle protectrice autour de nous, on eut cette idée de devenir parfaitement obèse. Et depuis, la vie s'écoulait en circuit fermé à l'intérieur de notre sphère. Cela n'était pas important, car on savait qu'il ne subsistait plus grand-chose de réel dans ce que l'on renvoyait aux autres. En vrai, on était ce personnage magique qui subissait les affres d'une malédiction ancestrale. On avait beau étudier l'anathème qui nous frappait, en disséquer les rouages, on ne pouvait s'absoudre de sa sentence. Le monde semblait partir à la dérive, était devenu absolument inaccessible. On ne pouvait plus sortir de notre trou noir et on ne pouvait pas non plus regarder la fille qui avait fini par avoir un prénom, à cause de ce trou noir justement, qui devenait beaucoup plus dangereux lorsqu'on était exposé aux autres. Quand ce n'était pas le cas, il suffisait de se tenir au bois du lit durant nos nuits d'insomnie afin de ne pas sauter par la fenêtre et le tour était joué. Le temps n'existait plus. On ne parlait plus jamais, sauf à nous-mêmes pour nous raconter des histoires enfermées dans notre chambre. Malheureusement, lorsqu'on voulait les écrire ou les raconter à haute voix dans notre dictaphone pour envoyer la cassette à la fille qui n'avait pas eu un prénom tout de suite autrefois, nos histoires retombaient comme des oiseaux morts à nos pieds. Et c'était dommage parce que personne ne saurait jamais qu'il y avait quelqu'un de vivant à l'intérieur de cette bulle opaque si cela continuait ainsi. Alors, on se disait qu'au moins, tant qu'on restait un personnage imaginaire, rien ne pourrait devenir véritablement dangereux. Pourtant, il fallut bien admettre que la vie ne pouvait pas vraiment se dérouler en entier à l'intérieur de nous-mêmes. Chez le père ou chez la mère, il fallait se nourrir ou se laver ou aller aux toilettes, et l'on devait veiller à certaines choses réelles, comme fermer la porte de la salle de bain ou de la chambre à clé. afin que le père ou son nouveau compagnon ou l'un des clochards de la mère n'entre pas pour nous regarder ou nous mettre un couteau sous la gorge ou autre chose. Et on n'en avait pas envie, surtout de l'autre chose. Mais c'était épuisant de guetter tout ce qui s'insinuait de sale et d'inquiétant dans les entrées et les sorties du corps. Et un jour, on oublia de fermer la porte à clé, si l'on peut dire. On avait voulu sortir un peu à l'air libre. On avait marché, respiré, observé de loin l'agitation du monde. Finalement, nos pas nous avaient reconduits jusqu'à la maison du père, où nous passions la semaine. Ce jour-là, il y avait la voiture du père. Sans doute était-il rentré du travail plus tôt pour pouvoir se suicider sans être dérangé. En tous les cas, il n'y aurait pas moyen d'être tranquille aujourd'hui. Le père nous gâcherait notre imagination et après on irait encore se dissoudre ou tomber en flaque et on aurait encore mal dans la poitrine et on ne pourrait plus bouger ou dire un mot. Ensuite, la voix du père s'échappa de la maison. Elle disait simplement « Viens ». Le père était allongé sur le canapé dans ses vêtements sales, maculés de graisse, sa poche de médicaments à ses côtés. Il avait essayé de s'entailler les veines, du moins c'est ce qu'il voulait signifier, et les traits de sang sur son poignet semblaient avoir été volontairement étalés avec les doigts. « Je vais mourir, disait le père, parce que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, sinon tu ne sortirais pas dehors. Tu n'essaierais pas de te faire des amis. Tu ne regarderais pas les filles. Et je ne serais pas obligé de t'éviter constamment à cause de ce que tu penses de moi. » D'accord, disait-on, parce qu'on ne savait pas quoi dire d'autre. « Un jour tu seras puni pour avoir voulu que je meure, disait le père. Les gens sauront que tu es coupable, et tu auras honte comme j'ai honte. Tu ne pourras pas les regarder, tu ne pourras pas leur parler. Et tu fuiras, et tu devras te cacher toi aussi. » D'accord, disait-on. Parce qu'on ne savait pas quoi dire d'autre. Le père parlait très lentement maintenant, avec un effort pour rendre sa voix au perché plus grave, et en même temps plus ronde, obséquieuse, ce qui laissait une impression désagréable. Ce faisant, il glissait la main dans sa poche de médicaments qu'il avalait comme des bonbons en nous fixant. « Tu n'essayes même pas de m'empêcher de les avaler. Tu n'appelles même pas les pompiers. Tu le vois bien que tu veux que je meure, » disait le père. Et on regardait avec angoisse la chemise ouverte, pleine de taches huileuses, et la main libre qui caressait son menton couvert de poils humides et dégoulinants, et qui redescendait plus bas, au niveau de son bas-ventre. On avait envie de fermer les yeux, on voulait bien que le père meure, mais sa saleté nous mettait mal à l'aise, et son visage et sa voix, et puis ses gestes qu'il faisait. On essayait bien de fixer un point imaginaire dans le vide. Seulement notre regard semblait aimanté par le torse et le sexe en érection du père, où on croyait voir maintenant de gros insectes bruns qui couraient entre les poils, s'échappant de sa chemise ouverte ou de son pantalon. Et le père gardait la bouche pincée, entrouverte, et nous regardait de biais avec une grimace obscène, et on ne savait pas si on voulait dormir ou seulement tomber par terre et laisser entrer les anges. Et la voix du père répétait « Viens ». On ferma les yeux finalement. Le père serait fâché qu'on s'échappe comme ça en imagination. Mais on ne voulait plus voir les longues pattes noires et les battements d'élytres qu'on devinait dans l'ombre, sur la langue et à l'intérieur des joues et le long des parties intimes du père. La tête nous tournait. On s'agenouilla et vomit au sol. Quand on rouvrait les yeux quelques siècles plus tard, parmi les ruines de rêves pilés qui nous écorchaient les pieds, on savait désormais que l'on n'aurait plus jamais rien de commun avec un autre humain. Parce qu'on venait de comprendre brutalement qu'on ne pouvait vraiment plus continuer d'attendre d'être adulte pour s'en aller enfin, se cacher dans un monde vide où on serait invisible aux autres sans intermittence. Parce qu'on venait de comprendre brutalement que nos espoirs secrets de relations sociales ou amoureuses devaient être abolis, non plus seulement parce qu'ils faisaient proliférer notre trou noir, mais parce qu'ils nous exposaient au danger du monde des autres. Parce qu'on comprenait enfin qu'il était temps de devenir pour de bon un personnage pour toujours, rien qu'un personnage que les ténèbres du dehors ne pourraient plus effleurer. Et on décida que dorénavant, on ne se souviendrait plus jamais, ni de ça, ni de rien, de tout ce qui avait existé jusqu'ici. Pourtant, en même temps qu'on effaçait, comme on efface un disque dur, l'ensemble des événements de notre enfance inutile, on entendit quelque chose qui nous parlait à l'intérieur de notre tête. « Tu veux devenir un personnage de conte ? Chiche, tu ne regretteras pas le voyage. » Et ce soir-là, le ricanement rauque qui avait ponctué l'affirmation énigmatique de la voix résonna en boucle dans notre esprit. À partir de ce moment-là, on ne dormit plus jamais vraiment, car on commençait à voir des monstres qui nous parlaient de façon déformée de notre histoire, et les monstres pouvaient nous faire du mal, à nous ou à notre cheptel de personnages. Et à notre grand étonnement, la terreur était dorénavant partout, et tout le temps. Lorsque je sortis enfin de la maison, le quartier des enfants oubliés avait changé. Les rues étaient vides, le sable frissonnait. À la surface, une brise légère dispersait mes souvenirs cassés dans un mélange de vapeur et d'éclat blême. Et j'entendais ma fleur carnivore s'épanouir dans son trou noir, là, tout près de mon cœur, dans un bruissement d'araignée qui s'étire. et je mourais d'envie de me jeter à nouveau au sol, dans un creux de sable ou contre une plaque de béton, pour me laisser enterrer par le souffle du désert ou l'écume qu'il laissait derrière lui de sable en pluie. Résolu à ne plus jamais bouger, j'observerai patiemment les gouttes de rosée en suspension au-dessus de ma tête, accrochées aux particules fines de l'air nocturne comme des billes de condensation le long d'une vitre fumée. Surpris, je m'aiderai laborieusement des deux mains afin de reprendre une position assise, rapprocherai mes yeux des gouttes qui guetteraient comme des oiseaux de proie la végétation que je verrais s'extraire des trottoirs, de chacune des brèches de la chaussée, des regards d'égout, de mon propre corps. J'aurais enfin compris. Et j'observerai avec stupeur les arbustes à fleurs, les quelques rangs de vignes poussés sur mes flancs et ma poitrine. J'aurais enfin compris. Sur mon sexe, des oiseaux viendraient maintenant nouer des fétus, tresser des abris, puis remonteraient le long de mon ventre grappiller quelques grains de raisin, donner de petits coups de bec contre mon épiderme séché par l'iode et le sable, qui m'envelopperait comme une seconde peau. J'aurais enfin compris. Enfin, lorsque les feuilles ocres commenceraient à balayer les ruelles, viendraient danser dans mes cheveux, voisinant avec les plumes blanches et froides qui se seraient déposées des petits nuages floconneux, une sensation étrange m'envelopperait. Mon corps deviendrait fluide, aérien. J'esquisserai alors un petit saut sur place pour voir, parviendrai à la cime des bâtiments. À l'horizon, la cité endormie brillerait dans la nuit. J'aurais enfin compris, je sentirais cette légèreté en moi. Mes enjambées avaleraient les parcelles du désert l'une après l'autre. Mon ombre, décorée aux couleurs des quatre saisons, fondrait sur la ville, engloutirait les barres de métal poussière. J'aurais enfin compris, j'aurais laissé entrer le silence.
Merci Laurent, nous allons écouter un petit morceau de musique. Qu'est-ce que vous avez pensé l'un de l'autre de vos lectures réciproques ? Qui veut parler ?
Moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'échos. Ça entrait en conversation quelque part.
Oui.
Parfois dans une forme. Des échos de plaisir pris à assembler des mots, à filer une image comme la fleur carnivore qui a quelque chose de dévorant, je pense aussi pour la personne qui t'écoute ou te lit. Parfois dans l'opposition, puisque je pense que cette figure tout aussi dévorante du père et à peu près ce que les garcératiques, ce dont les garcératiques essayent de se débarrasser. Il y a tout un petit document dans les documents qui sont recueillis par l'anarchiviste qui raconte l'histoire des garcératiques qui dit « Papa trouille, trouilleur, trouille au trou, hélico papater, bombardier, lutte anti-lutte, ravitailleur en viol, papavion de servitude, mais ciseaux dans vos guerres. » Donc,
je crois que c'est ce que j'ai le plus aimé d'ailleurs dans ce que vous avez fait, c'est cette espèce de luxuriance de la langue. Moi, j'adore ça, la gourmandise des mots écrits, puis la gourmandise des mots dits. La façon dont vous l'avez joué aussi, parce que vous l'avez vraiment joué, vous ne l'avez pas juste lu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super.
Mais cela dit, là, pour le coup, il inspire plutôt du dégoût.
Oui, tout à fait, je parlais de votre texte. Ah oui, non, mais ce type-là, d'ailleurs, il l'appelle le père, le mot papa n'existe pas.
Ouais. Et après, je me demandais, alors, on retrouve le même goût des mots, de leur travail, le trou noir aussi, dans lequel le langage lui-même et l'imaginaire s'aventurent. Et je me demandais comment vous faisiez pour produire un récit, parce que en ce qui me concerne, c'est très compliqué. Le cheptel de personnages m'a beaucoup intéressé parce que je sais pas, enfin vraiment pour moi, écrire quelque chose qui ressemble à une histoire et essayer de construire des personnages, c'est un... Je pensais jamais faire ça, c'est mon premier livre et ça ressemble... C'est pas vraiment un roman, je le défends quand même comme une fiction et un récit, mais en vous écoutant, je me pose toujours cette question de comment c'est possible de décrire quelque chose comme ça qui se déroule... Est-ce que ça se déroule de façon linéaire, d'ailleurs, dans l'ensemble du livre ou pas ?
Alors, non, moi j'ai une façon très particulière d'écrire. J'ai même complètement arrêté d'essayer de structurer un roman ou un conte. Je ne sais pas du tout où je vais. Enfin, j'ai quelques lignes de force, j'ai quelques passages souvent déjà écrits, et très souvent... La décision quant à l'orientation que va prendre le livre et comment ça va se faire, elle dépend de ce qui s'est fait, de ce qui s'est écrit. Et d'ailleurs, je dis écrit, mais moi, quand j'écris, j'ai... Alors, c'est bizarre de le dire comme ça, mais en fait, j'entends la voix qui raconte l'histoire. C'est ce qui fait que d'ailleurs, les premiers jets, je dois écrire extrêmement vite, parce que je ne vais jamais aussi vite que la voix qui raconte l'histoire. Et c'est seulement après que, par petites touches, je vais changer des choses ou les augmenter, mais dans un premier temps, il ne peut pas y avoir de fioritures, et en plus, je tiens absolument à l'oralité, je tiens à cette voix que j'entends, j'ai l'impression que c'est le seul signe d'une possible authenticité. Parce que moi, ce qui a été très dur quand j'avais écrit le premier livre qui s'appelait « Monstrueuse féerie » il y a quelques années, c'est que j'avais d'abord ce sentiment d'être complètement illégitime, ensuite la peur de me replonger dans une espèce de folie de mon adolescence dans laquelle je pensais être écrivain, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'écrire, il s'agissait d'être écrivain, donc avec ce truc mortifiant que ça peut comporter. Et je tenais absolument, et je tiens toujours absolument à cette voix. Et ça m'est déjà arrivé hein, d'essayer de poser quand même des éléments de structure, sauf qu'il y a un chapitre sur trois que je suis incapable d'écrire, parce que je ne l'entends pas. Et donc là, c'est ce qu'on appelle une ellipse narrative, c'est une petite truquerie. Vous, c'est le premier, je pensais qu'il y en avait d'autres avant.
Non, c'est mon premier livre... En tant qu'autrice, j'ai beaucoup traduit par ailleurs. C'était très pratique pour moi de... En fait, comme j'arrivais pas à inventer des histoires, je trouvais ça super de traduire les histoires que les autres avaient réussi à construire. Et puis, c'est vrai qu'à force de le traduire, quand même, j'ai eu envie d'écrire. Et ce livre est très imprégné de ma pratique de la traduction, de mon rapport... c'est un livre où le français est tiré vers des langues étrangères. Le français est rendu étranger à lui-même. Donc, ça, c'est vrai que c'est... Et il y a beaucoup de choses. Des fois, c'est des choses qui me viennent quand je traduis. Et puis, je me dis non, je ne peux pas écrire ça parce que là, c'est vraiment trop audacieux comme traduction. Donc, je le garde. Enfin, j'avais une petite... c'est un livre qui est fait en partie de choses récoltées au fur et à mesure de mon travail de traductrice et que j'ai transformé en livre d'autrice, mais ça m'appartient, mais c'est tellement imprégné de choses qui viennent d'autres lectures, d'autres choses entendues, de conversations, de... Enfin, c'est écrit par « pas moi », comme dirait Beckett, « not I ». Et il y en aura un deuxième, 404, qui sort en octobre.
D'accord.
Chez quel, autopromo. Chez
quel, le même éditeur?
Non, chez le Nouvel Attila, dans la collection Othello. La même collection qu'Hélène Bessette, enfin, que la collection dans laquelle Benoît Viraud, l'éditeur, publie Hélène Bessette. Ma grande idée étant de, enfin, donner une existence collective au gang du roman poétique que Hélène Bessette voulait fonder, mais elle était toute seule dans son gang. Et donc, je pense que c'est l'occasion de vraiment se lancer dans le... Enfin, créer un gang... Des romans poétiques où on serait, où il n'y aurait pas que Hélène Bessette, elle est morte. Comme ça maintenant. Bref. Mais la collection chez Quartet s'appelle Prose libre. Et je ne sais pas si ça te parle, toi, comme... parce que quand on écrit quelque chose de l'ordre du roman, du récit, on est censé respecter plein de codes. Et toi, tu te débrouilles comment par rapport à ces codes ou,
Je ne me suis jamais posé la question. J'ai aucune formation littéraire, donc ça tombe bien. Ça permet de ne pas avoir à respecter des codes que je ne connais pas. Je suis psychologue de métier, même si évidemment j'ai énormément lu, mais j'ai tout fait en... Enfin, j'ai quand même des très grosses lacunes littéraires. La conversation qu'on avait avant l'émission me le montre. Hein. Je pouvais difficilement participer, mais par contre, vous écoutez avec grand plaisir. C'est sûr que dans mes textes jusqu'ici, il y a les codes du conte, malgré tout. Ce sont des références aux contes. Souvent, on dit que ce que j'écris, ce sont des contes. C'est même écrit sur la couverture, et en fait, je suis qu'à moitié d'accord avec ça. C'est plutôt l'allégorie d'un drame psychiatrique et qui se sert des contes, qui les a constamment en référence, mais ce ne sont pas vraiment des contes.
Je voudrais remercier Loredana Farina, qui est de l'autre côté de la vitre, et Lucas Panture. Merci à vous les deux. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Donc c'était Laurent Pépin pour Clapotil. Fable Fertile éditeur et Fanny Quément pour Jus Cassagante, un quartet collection prose libre. Fanny Quément, Jus Cassagante, quartet collection prose libre. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.